l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 20 juillet 2026. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. C'est l'heure de nos informations interactives sur Radio Mandeléo. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité dans cette édition du journal, drame à Kamituga en territoire de Mwenga, au moins 3 morts et une vingtaine de blessés dans un accident minier survenu samedi dans les mines d'exploitation d'or dans la ville de Kamituga. Les victimes ont été surprises par un éboulement de terre dans ces carrés miniers situés au quartier Kalingi, rapporte des sources locales. Au sommaire également, certains acteurs sociaux de la province du Sud Kivu et au niveau national plaident pour un dialogue inclusif basé sur, entre autres matières à traiter, la restauration de l'autorité de l'État dans la partie est de la RDC. L'un d'eux, Ignace Mupira, ancien député national, nous en parle dans cette édition du journal. Voilà tout pour les minutes de l'actualité ce matin. Radio Mandeléo en plusieurs lettres, les journaux en deux titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Pour son aboutissement, le dialogue convoqué par le président de la République doit intégrer les acteurs majeurs de la crise, y compris l'opposition armée. Telle est la proposition d'Ignace Mupira, acteur sociopolitique et député national dans les parlements de la transition de 2003 à 2006. Il salue la convocation de ce dialogue qui, à l'en croire, est l'une des voies appropriées pour restaurer la paix en RDC et favoriser la cohésion nationale. Cet ancien parlementaire propose l'inscription sur l'agenda des matières prioritaires à traiter, la restauration de l'autorité de l'État dans la partie est de la RDC. Il insiste aussi sur l'inclusivité de ces dialogues. Ignace Mupira en parle.
J'ai salué l'initiative prise par le président de la République. Tout le monde a souhaité qu'il y ait un dialogue inclusif et qui puisse traiter des questions d'actualité, parmi lesquelles la priorité, c'est d'abord le retour de la paix. Le dialogue doit intégrer des questions de politique interne, la gouvernance qui pourrait venir en second plan, mais il y a d'abord la question de la paix. La paix, l'harmonie, la cohabitation pacifique avec les pays voisins comme le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Il faut que ce dialogue puisse déboucher sur la restauration de la paix et d'une paix durable, mais qui intègre tous les acteurs majeurs, tous les protagonistes, ceux qui ont pris les armes et ceux qui n'ont pas pris les armes, et ceux qui représentent le gouvernement et qui ont la charge de justement de restaurer la paix, en commençant par le président de la République, et tous les autres acteurs, les églises, la société civile, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour restaurer la paix.
Et toujours dans ce même chapitre, la coalition des acteurs sociaux dénommée PIE, PIS appelle à l'ouverture officielle d'un processus de dialogue dûment annoncé, juridiquement encadré, inclusif, transparent et conduit dans le respect de l'intérêt supérieur de la nation. Ces structures regroupant les acteurs sociaux de la RDC et de la diaspora l'expriment dans une déclaration rendue publique samedi 18 juillet 2026 au lendemain de l'annonce de l'organisation imminente du dialogue national. Dans cette déclaration, la coalition PIS exprime certaines considérations, notamment l'organisation du dialogue en associant les forces vives de la nation, à savoir, entre autres, les institutions de la République, les acteurs politiques, la société civile, les femmes, les jeunes et les autorités traditionnelles. Cette plateforme exige également que les dialogues soient confirmés par une communication officielle des institutions compétentes, au lieu d'entretenir les contradictions sur les médias et réseaux sociaux. Écoutons à ce sujet Elodine Tamuzinda, modératrice de la coalition PEPIS.
Les acteurs politiques, la société civile, les confessions religieuses, tout le monde, est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que c'est inclusif ou bien c'est juste pour quelques personnalités? Ce sont des inquiétudes. Nous disons que les populations congolaises, particulièrement celles des zones affectées, doivent être largement impliquées. Pourquoi ça va se passer à Kinshasa avec quelques personnalités et comme si ça devient un autre référendum bis, là où il y a des problèmes, les parties prenantes ne sont pas concernées. C'est vraiment une inquiétude. Alors, eu égard à ce qui précède, notre coalition PEPIS appelle à l'ouverture d'un processus officiellement annoncé, juridiquement encadré, inclusif, transparent et orienté exclusivement vers l'intérêt supérieur de la nation. La coalition réaffirme que la finalité du dialogue ne réside pas dans une simple organisation, mais dans l'application intégrale des engagements qui en découleront pour que cela ne soit pas un cycle, que nous ne puissions plus y revenir demain ou après-demain.
Elodie Tamozinda, dans ses propos recueillis par notre confrère Expedi Kialo. Entre-temps, l'annonce vendredi 17 juillet dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de son adhésion à l'option d'un dialogue inclusif entre les Congolais continue de susciter des réactions au sein de la classe politique et de la société civile. Le chef de l'État a fait cette annonce lors d'une audience accordée aux responsables de confessions religieuses à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Dans l'opposition, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, accueille favorablement cette ouverture tout en appelant à la prudence. Ferdinand Kambere, au cadre de cette formation politique, estime que le président de la République semble avoir pris en compte les revendications de l'opposition, des attentes de la population ainsi que les recommandations de la communauté internationale en faveur d'un dialogue sans condition. Du côté de la société civile, l'annonce du président Tshisekedi est également saluée. Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado Jean-Claude Katende, considère cette décision comme une étape importante pour la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Il félicite les chefs de l'État pour avoir choisi la voie du dialogue et estime que cette démarche peut raviver l'espoir des Congolais quant au retour d'une paix durable dans le pays. Jean-Claude Katende invite cependant toutes les parties concernées à privilégier la transparence et la bonne foi durant les processus. Il appelle aussi bien la majorité au pouvoir que l'opposition, les groupes rebelles et les organisations de la société civile à s'engager dans une dynamique de compromis afin de favoriser les succès du dialogue. Et toujours en foi avec la République démocratique du Congo, le président rwandais Paul Kagame, également président du Front patriotique rwandais FPR, a tenu un discours ferme devant les bureaux politiques du parti, réaffirmant la détermination du Rwanda à défendre sa sécurité et sa souveraineté face aux menaces qu'il estime peser sur les pays dans une région des Grands Lacs toujours secouée par des conflits armés. Au cours de son intervention, Paul Kagame, dont l'armée, certains officiers et plusieurs entreprises rwandaises font face à des sanctions américaines, a dénoncé ce qu'il considère comme des tentatives visant à réduire les Rwandais au silence et à minimiser ses préoccupations sécuritaires. Selon lui, la seule manière de les faire taire serait sa mort. Le chef de l'État rwandais a également insisté sur l'égalité de la valeur de chaque vie humaine, rejetant toute approche qu'il juge discriminatoire. Évoquant la taille et la vulnérabilité du Rwanda, Paul Kagame a reconnu que son pays pouvait subir des pressions tout en affirmant que toute volonté de remettre en cause son existence serait inacceptable. Poursuivant son intervention, le président rwandais est revenu sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et sur les déclarations appelant à l'élimination du mouvement M23. Les groupes contrôlent actuellement des vastes portions des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon Paul Kagame, ces déclarations dépassent les seuls cadres du groupe armé et viseraient également les Rwandais. Cette sortie intervient dans un contexte où, en dépit de l'existence de l'accord de Washington et de la tenue régulière des réunions et d'évaluations, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer. Cette évolution contraste avec la multiplication des initiatives diplomatiques censées contribuer à la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs. Et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndéléo à Bukavu et dans les hauts plateaux de Kalehe. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, au moins 3 creuseurs artisanaux ont perdu la vie et une vingtaine d'autres ont été grièvement blessés dans un accident minier survenu samedi 18 juillet dans les mines d'exploitation d'or dans la ville de Kamituga en territoire de Mwenga. Le drame s'est produit en soirée sur le site Batongo, chantier Mabela situé dans les quartiers Kalingi, dans la ville minière de Kamituga, Omer Mudekereza.
D'après les premières informations recueillies auprès du chef du bureau minier de Kamituga et la société civile locale, les victimes travaillaient dans un puits d'or appartenant à un exploitant connu dans la zone nord. Cet accident serait survenu suite à un éboulement dans les carrés miniers, avec des mottes de terre qui ont englouti les victimes, jusque dans la journée de dimanche 19 juillet 2026. Les opérations de secours se sont poursuivies afin d'évacuer les victimes et de vérifier si d'autres mineurs se trouvaient encore sous terre. À ce stade, les autorités et les acteurs locaux n'ont pas encore établi avec précision le nombre des personnes présentes dans les puits au moment du drame. Ce nouvel accident remet en lumière les risques auxquels sont quotidiennement exposés les creusers artisanaux de Kamituga, l'un des principaux centres d'exploitation aurifère du Sud Kivu. Face à la récurrence de ces drames, plusieurs organisations de la société civile appellent au renforcement des normes de sécurité, à un meilleur encadrement de l'exploitation minière artisanale et à une surveillance plus stricte des sites afin de prévenir de nouveaux accidents. Elles rappellent que des incidents similaires ont déjà endeuillé plusieurs sites miniers du Sud Kivu, notamment celui de Lomera, dans les territoires de Kabare, où un glissement des terrains avait fait au moins 10 morts en juillet 2025.
Merci Omer Amoudekereza. Et la situation humanitaire continue de se détériorer dans les groupements des Iralo et entités voisines situées dans les hauts plateaux du territoire de Calais. Ceci fait suite à la fermeture continue de l'axe routier reliant Ziralo Aminova via Lumbishi. Cette alerte est du mouvement des sociétés civiles du Congo MCCO en sigle, coordination des Iralo, au cours d'un entretien avec Radio Maindelo le week-end. En croire Ezekiel Bahati Christian, coordinateur de cette structure dans cette partie du territoire de Calais, les blocages de la route depuis le 19 janvier 2026 a interrompu l'approvisionnement en produits de première nécessité. Ceci entraîne la paralysie au sein des marchés à Tchambombo et à Lumbishi et rend difficile l'évacuation des malades vers les structures médicales spécialisées et la scolarité des élèves qui ont des difficultés à circuler. Celui-ci plaide pour la rouverture de cet axe, la mise en place d'un couloir humanitaire pour les urgences médicales et les échanges entre différentes entités. Tout en insistant sur la fin des tracasseries dénoncées à différents endroits, Ezekiel Bahati Christian appelle les autorités à garantir un accès sécurisé pour tous.
Depuis le 19 juin 2026, l'axe routier Ziralo vers Lumbishi Minova est totalement paralysé par un blocage militaire qui est au niveau du pont de Bugabo. Ce qui était une voie vitale est devenu un mur. Cela a une conséquence. Plus aucun véhicule ne ravitaille Ziralo en produits de première nécessité. Surtout le marché de Tchambombo et Lumbishi, poumon économique de notre zone. C'est une asphyxie économique, mais au-delà de l'économie, nos malades ne peuvent plus être évacués vers les centres de santé équipés. Face à ce silence, le mouvement des sociétés civiles du Congo lance un cri d'alarme aux autorités et aux décideurs militaires. Réouverture immédiate de l'axe Ziralo vers Minova pour permettre la libre circulation des personnes et des biens.
Et le député provincial Jackson Kalimba exige la suppression des multiples barrières érigées sur l'axe Bukavu-Uvira. Cet élu de Bukavu l'a exprimé au cours d'une conférence organisée à Uvira le week-end dernier, au cours de laquelle il a porté haut les revendications des habitants du Sud Kivu. Pour lui, il est urgent de supprimer ces barrières pour réduire les tracasseries dont sont victimes les usagers de la route nationale numéro 5. En réponse, il affirme que les autorités et les services de sécurité présents dans la salle ont promis de s'impliquer et de supprimer 15 barrières sur les 19 existantes à partir de samedi 18 juillet pour faciliter la libre circulation des personnes. Dans la même activité, Jackson Kalimba a sollicité le renforcement de l'éclairage public à Uvira et l'installation d'un centre de capture des passeports dans cette deuxième ville du Sud Kivu. Sur le plan économique, il exhorte le gouvernement congolais à déployer les bateaux de pêche sur le lac Tanganyika, une initiative qui vise à garantir la sécurité alimentaire et maximiser les recettes du trésor public. Au cours de la même activité, l'élu de Bukavu a rendu compte à la population sur ses actions pendant la session de mars qui s'est écoulée. Chapitre santé dans cette édition du journal. Étendre les campagnes de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola dans d'autres zones de la République démocratique du Congo contribuerait à renforcer la vigilance communautaire, à prévenir l'apparition des nouveaux foyers épidémiques et à favoriser une détection précoce des cas suspects. Recommandation formulée lors de la clôture samedi dernier d'un atelier de formation organisé par Food for the Hungry à l'intention des facilitateurs communautaires dans la ville de Bukavu, Omer Modekereza.
Pour Kulimushi Roman, agent de la division provinciale de la santé et facilitateur de cet atelier, un bon facilitateur communautaire doit réunir plusieurs qualités pour mener efficacement les activités de sensibilisation. Il cite notamment l'empathie, la maîtrise des langues locales, l'écoute active, l'esprit d'analyse, le sens de la communication, la disponibilité, l'intégrité, ainsi que la capacité à instaurer un climat de confiance avec les communautés. L'objectif est de transmettre des messages clairs, crédibles et adaptés aux réalités locales, afin d'encourager l'adoption durable des comportements préventifs, en dit-il. Pour lui, tout facilitateur doit également veiller à combattre les rumeurs et la désinformation, tout en encourageant la population à signaler rapidement tout cas suspect et à respecter les mesures de prévention. Il en parle dans cet élément.
Ce qu'ils doivent faire les participants, s'il est tel, la première des choses, ils doivent sensibiliser la population. Que la population comprenne que la maladie existe. Bon, sur terrain, ils doivent avoir la confiance et doivent gagner aussi la confiance de la population pour que la sensibilisation et les messages bien reçus, ils doivent avoir un esprit d'écoute, de tolérance et savoir transmettre dans un cadre collaboratif.
De leur côté, les participants saluent cette initiative qu'ils considèrent comme un renforcement essentiel de leurs capacités. Ils s'engagent à mettre en pratique des connaissances acquises, à intensifier les séances de sensibilisation dans leurs communautés respectives et à promouvoir une participation active de la population dans la prévention de la maladie. L'un d'eux, Mouroula Benjamin, de la zone de santé de Nyantende, en parle.
J'ai retenu beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant d'abord. Ce qui est important est qu'on va aller sur terrain, on va mobiliser les gens, on va leur aider à prévenir contre les virus Ebola. Oui, je voulais qu'on ne se limite pas seulement dans des zones de santé tout près, mais qu'on aille dans d'autres provinces, qu'on leur dise que l'Ebola existe.
Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'intervention rapide contre la maladie à virus Ebola, mise en œuvre par Food for the Hungry dans les territoires de Kabari et de Walungu, précisément dans les zones de santé de Nyangezi, Mitimuresa et Nyantende.
Et je vous prends Alain Kabika avant de parler sport. Les autorités sont appelées à mettre en place des politiques visant à adapter l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes aux profondes mutations provoquées par l'intelligence artificielle et la révolution numérique. Cette proposition est du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance Baraza Laraïa dans une note rendue publique le week-end.
Il justifie sa proposition par le fait que le monde du travail évolue rapidement sous l'effet des nouvelles technologies, créant des nouveaux métiers tout en transformant ou en faisant disparaître certaines professions. Cette organisation de défense des droits humains fait savoir que si des réformes ne sont pas engagées rapidement, la RDC risque de voir ses diplômés arriver sur les marchés d'emploi avec des compétences inadaptées. Ainsi, il appelle à accompagner les jeunes en tenant compte des réalités économiques, des avancées scientifiques et des besoins futurs du marché de l'emploi. La structure propose au gouvernement d'élaborer des stratégies nationales d'adaptation à l'éducation de l'économie numérique, moderniser les programmes scolaires et renforcer les services d'orientation scolaire dès l'école secondaire. Elle demande également aux enseignants d'intégrer les nouvelles technologies dans leurs méthodes pédagogiques. Son président national, Amani Luamba Shadrack, en parle.
Nous avons estimé, rappelé à l'État congolais et à tous les acteurs de l'éducation doivent innover et voir comment faire face à la montée de l'intelligence. Mais aussi l'État congolais doit aussi miser sur l'orientation scolaire en instaurant même les robotiques et l'intelligence artificielle dans toutes les formations scolaires et universitaires. Les enfants ne doivent plus étudier pour raison de l'X ou d'appartenance sociologique et familiale, de prestige, mais doivent choisir des objets et toute autre diverse formation, surtout formation professionnelle, le métier, parce que le monde en aura toujours besoin. Et cela va éviter à ce qu'on n'ait pas un nombre très élevé de chômage après les diplômes, parce que le monde n'a plus seulement besoin de titres académiques, le monde a besoin de compétences, les compétences recherchées sur les marchés de l'emploi.
Pour ce faire, le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, Baraza Laraïa, recommande de privilégier les filières liées aux sciences, technologies, ingénierie, cybersécurité, à l'intelligence artificielle, l'agriculture moderne, l'énergie renouvelable et l'entrepreneuriat.
Merci Alain Kabika et merci de nous suivre en direct à New York et aux États-Unis d'Amérique sur le www.radiomindelo.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maendeleo. du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Coupe du Monde 2026, l'Espagne remporte la Coupe après sa victoire 1-0 face à l'Argentine en finale jouée dans la nuit d'hier dimanche à New York aux États-Unis. L'unique but de la rencontre a été marqué par Ferran Torres. L'attaquant du FC Barcelone, entré en cours des jeux, a attendu les prolongations pour offrir à son pays cette Coupe du Monde 2026. Après 2006, l'Espagne est de nouveau champion du monde. Au royaume des récompenses, Rodri décroche les titres des meilleurs joueurs du tournoi, Cubarsí décroche les titres du meilleur jeune joueur et Younes Saïmon les titres du meilleur gardien du tournoi. Et sur le plan national, le Daring Club Virunga de Goma a remporté la 60e édition de la Coupe du Congo en s'imposant 4-2 lors de la séance des tirs au but face à l'AS Boutras de Lumbashi, ce dimanche au stade Tarafael de Kinshasa. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score d'un but partout à l'issue des temps réglementaires. Les Gomatraciens avaient ouvert les scores à la 72e minute grâce à Kiala Mansouka avant que les Louchois ne reviennent au score en fin de rencontre pour arracher les prolongations finalement. C'est lors de la fatidique séance des tirs au but que les deux Virunga de Goma s'est montré le plus réaliste en s'imposant 4-2. Grâce à ces succès, le Daring Club Virunga de Goma succède à l'AS Simba de Kolwezi au palmarès de la compétition et décroche son billet pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF.
La revue de presse, Radio Maïndélé capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous Myriam Moufano, la détermination de la coalition C64 à tenir sa marche malgré l'annonce d'une marche de l'Union Sacrée en cette même date et la découverte d'une nouvelle espèce de singe dans les parcs de l'Omami font partie des sujets commentés par la presse le week-end dernier.
Débutons cette revue de presse par la Primaire RDC qui écrit « La coalition C64 réaffirme sa détermination à organiser sa marche pacifique le mercredi 20 juillet 2026 sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. » Dans un communiqué publié le 16 juillet, cette plateforme de l'opposition dénonce l'annonce d'une manifestation de l'Union sacrée de la nation prévue à la même date, estimant qu'il s'agit d'une tentative visant à entraver l'exercice des libertés publiques. Il rappelle avoir notifié cette manifestation aux autorités compétentes depuis le 6 juillet, conformément à la loi, tout en rendant public les itinéraires officiels. La C64 insiste sur le caractère strictement pacifique de sa mobilisation et met en garde contre toute tentative de perturbation. Il affirme que les éventuels auteurs d'incidents devront en assumer la responsabilité. La coalition réitère également son engagement à organiser cette marche dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Face à cette situation, la C64 appelle les autorités administratives et les services de sécurité à garantir la protection de tous les manifestants sans discrimination et assurer le respect de la liberté des manifestations, alors que la tenue des deux rassemblements simultanés suscite des inquiétudes quant à d'éventuelles tensions, conclut la Prenelle RDC. De son côté, TerraNova.cd indique qu'une nouvelle découverte scientifique met à lumière la richesse exceptionnelle de la biodiversité de la République démocratique du Congo. Des chercheurs ont officiellement identifié une nouvelle espèce de singe, baptisée Likweli de son nom scientifique, Colobus congoensis, dans le parc national de Lomami. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, cette avancée renforce les connaissances sur la faune congolaise, reconnue parmi les plus diversifiées au monde. La Likweli se distingue par ses lèvres orange vif, une caractéristique rare chez les colobes, ainsi que par un champ de ralliement puissant qui la différencie des autres espèces. Les chercheurs précisent que ces primates n'ont été observés que dans une zone d'environ 1700 km² à l'intérieur du parc national de la Lomami, ce qui souligne son caractère endémique et la nécessité de protéger son habitat naturel. Pour l'ICCN, cette découverte illustre le résultat des efforts de conservation menés dans ces terres protégées grâce au travail des éco-gardes et des partenaires. L'Institut rappelle que la préservation de parcs nationaux est indispensable pour protéger les espèces existantes et favoriser la découverte de nouvelles richesses naturelles, conclut TerraNova.cd. Bouclons cette revue de presse par Jambo-RDC.info qui indique que le président Félix Antoine Tshisekedi a donné le week-end dernier son accord de principe à l'organisation d'un dialogue national inclusif à l'issue d'une rencontre avec le responsable de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, de l'Église du Christ au Congo, SCC, et des Églises des Réveils du Congo, ERC, à la Cité de l'Union africaine. Cette initiative, portée par le principal confesseur religieuse, vise à instaurer un cadre de concertation entre les différentes forces vives du pays afin de rechercher des solutions consensuelles aux défis sécuritaires, politiques, constitutionnels auxquels la RDC est confrontée. Selon le pasteur Maurice Mondeko, directeur du cabinet adjoint du président national de l'SCC, les échanges ont porté sur la nécessité de promouvoir un dialogue inclusif dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans l'est du pays et les divergences entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Si le principe de ces assises est désormais acquis, les autorités n'ont pas encore précisé leur format, le participant, les calendriers ni les modalités de leur organisation, conclut jambo-rdc.info.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Drame à Kamituga en territoire de Mwenga, au moins 3 morts et une vingtaine de blessés dans un accident minier survenu samedi dans les mines d'exploitation d'or dans la ville de Kamituga. Les victimes ont été surprises par un éboulement de terre dans ces carrés miniers situés au quartier Kalingi, rapporte des sources locales. Et certains acteurs sociaux de la province du Sud Kivu et au niveau national plaident pour un dialogue inclusif basé sur, entre autres matières à traiter, la restauration de l'autorité de l'État dans la partie est de la RDC. L'un d'eux, Ignace Mupira, ancien député national entre 2003 et 2006, nous en a parlé dans cette édition du journal. La mise en onde était celle d'Anissé à Konkwa à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des radios Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur les www.radiomaïndéléo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.